Merci. Eh bien, j'ai un grand plaisir à vous présenter Serge Svigne, qui nous a fait l'amitié. Alors, si vous voulez, c'est la pression familiale qui fait qu'il a pu distraire un petit peu de temps pour venir nous voir. Hein. Nous avons mis au point la soirée à la dernière cousina de mois d'août. Donc, voilà. Donc, il a pu venir et nous l'en remercions. Je vais juste évoquer rapidement le parcours de Serge, parce que c'est quand même assez intéressant. Alors Serge a commencé à diffuser la culture en tant que prof agrégé de lettres modernes à Malesherbes, du côté de Paris. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, au bout de 8 ans, avec deux ou trois copains, ils se sont dit bon, on pourrait essayer de faire autre chose. Et c'est là qu'ils se sont mis à préparer le concours de l'école nationale d'administration de l'ENA. Tous ses copains n'ont pas été reçus, mais lui il est rentré. Et puis, il en est bien sorti puisqu'il est devenu conseiller d'État. Après cela, donc, il a fait 6 ans conseiller d'État, puis il a travaillé au ministère de l'Éducation pour mettre en place un service juridique, justement, ayant connu les aspects juridiques. Et puis ensuite, lorsque Jospin est devenu Premier ministre, il y a eu, donc, m'a-t-il dit modestement, une case à remplir, et donc, on lui a confié le secrétariat, il était secrétaire adjoint du secrétariat du gouvernement pendant 9 ans. Et ensuite, il est devenu big boss du secrétariat les 9 dernières années, jusqu'à ce qu'il y ait un an et demi. Voilà, on lui confie la mission de s'occuper du centre Pompidou avec toutes ses ramifications. J'ai testé Serge. Parce que vous savez, les énarques, on s'en méfie toujours. Hein. Je l'ai testé sur le prix de la chocolatine. Il ne connaît pas parce qu'il n'en mange pas. En revanche, j'ai pu le tester sur le prix de la baguette à Paris, 1,20 €. Voilà, c'est le prix près de chez lui. Trêve de plaisanterie. Maintenant, Serge va nous dresser un panorama de l'endroit où finalement il fonctionne sur l'art contemporain dans le monde et il va nous montrer comment de l'Europe aux États-Unis, avec maintenant la montée de l'Asie, les cartes sont en train d'être rebattues. Serge, à toi.
Merci. Bien, bonsoir à tous. Alors, parler de l'art contemporain de manière globale, générale, c'est un petit peu compliqué. Je vais vous dire déjà ce que je ne vais pas faire. Je ne vais pas rentrer dans des débats esthétiques, comparer des artistes à d'autres artistes. Ce que je vais faire, c'est plutôt essayer d'avoir des entrées, des angles d'attaque qui puissent permettre de cerner quelque chose que finalement on connaît assez mal et qu'on peut connaître, je dirais, avec une allure assez antipathique. Je veux dire l'art contemporain sous la forme soit des trucs qu'on ne comprend pas, qui déconcertent et dont on a parfois l'impression que l'artiste se moque de vous, vous agresse, vous provoque. Et puis aussi l'art contemporain vu sous l'angle de l'argent, hein, c'est-à-dire les milliardaires qui achètent des œuvres, qui les payent des fortunes. Voilà. Bon, je crois que l'art contemporain c'est effectivement tout ça et je vais donc essayer de m'intéresser à ces différents aspects. J'ai rien trouvé de mieux comme plan que de commencer quand même par parler des artistes, puis après des musées, parce qu'après tout, c'est ce que je suis en train de connaître le mieux. Mais aussi, je vous parlerai des acheteurs, et puis enfin du public. Alors, les artistes. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'art contemporain? Qu'est-ce que c'est qu'un artiste d'art contemporain? Vous savez qu'il y a une définition pour l'histoire. On dit que l'histoire contemporaine, c'est en gros après la Deuxième Guerre mondiale, c'est à partir de 1945. L'art contemporain, c'est beaucoup plus difficile à situer historiquement. D'autant qu'avant l'art contemporain, il y a ce qu'on appelle l'art moderne, ce qui brouille un petit peu les idées. Mais disons, pour simplifier, que l'art moderne, c'est la révolution moderniste dans la peinture, dans les arts plastiques, qui s'est passée au début du XXe siècle. Hein, on pense tout de suite aux impressionnistes, aux post-impressionnistes, à Picasso, etc. Et l'art contemporain, C'est l'art qui a été mis en œuvre par des artistes qui voulaient justement transgresser ce que l'on avait appris du modernisme. C'est-à-dire, qui ont commencé à se dire, mais cette idée de la modernité, c'est-à-dire une sorte de sens de l'histoire où on va faire de plus en plus intéressant, de plus en plus intelligent, de plus en plus beau, de plus en plus fort, est-ce que cette idée, il ne faut pas la revisiter ? Et donc les artistes de l'art contemporain, je crois qu'une de leurs premières particularités, c'est que c'est un très grand éclatement. C'est-à-dire que l'impression que l'on avait du temps du modernisme, où il y avait beaucoup d'expériences, où on remettait en cause la tradition, où on remettait en cause le classicisme, ben là on est allé vraiment jusqu'au bout. Tellement que, vous savez, on finit par se demander, mais où est l'art là-dedans ? Je crois que le plus évocateur, c'est Duchamp. Vous savez, Duchamp, c'est un artiste qui a commencé à peindre et puis qui s'est interrogé sur les vertus de la représentation, en se disant, mais en gros, quel est l'intérêt de représenter ? Quel est l'intérêt de cet art qui est purement rétinien ? Et donc, ben, il s'est engagé notamment dans ce qu'on a appelé le ready-made, c'est-à-dire on prend un objet, on le saisit tel qu'il est, l'artiste n'y fait rien, simplement il va le porter, il va le soustraire à la réalité et le porter dans une situation qui fera qu'il sera considéré comme une œuvre d'art. Et voilà, le plus célèbre, c'est l'urinoir de Marcel Duchamp, hein, c'est-à-dire bon, une urinoir comme il en existait autrefois, comme il en existe encore, qu'il a installé dans un musée, dans une galerie, et qui du coup devenait œuvre d'art. Voilà. Devenait œuvre d'art pour montrer en réalité que l'art, ça n'est pas nécessairement, ça peut être la représentation du réel, mais ça n'est pas nécessairement la représentation du réel. Ça n'est pas non plus la création d'une forme, mais ça peut être toute intervention de l'artiste qui essaye de donner du sens à un élément. Voilà. Et à partir de là, ben, les choses se sont énormément éclatées. Je veux dire que le médium dominant, qui était la peinture autrefois, pendant au moins un certain temps, a beaucoup perdu de sa place. Il y a eu même une sorte de défiance des artistes à l'égard de la peinture. Et c'est là qu'on a vu apparaître notamment deux choses très importantes dans l'art contemporain, ce que l'on appelle les installations. Vous savez, ces artistes qui vont travailler sur un espace, admettant ben, une chaise, un morceau de tissu. Un exemple concret, une exposition que l'on a fait récemment au Centre Pompidou, d'une artiste qui s'appelle Dominique Gonzalez-Forster. Dominique Gonzalez-Forster, c'est une artiste qui travaille beaucoup avec sa mémoire, avec ses impressions, ses sensations de l'enfance, de la formation. Et donc, elle avait occupé un grand espace dans le Centre Pompidou qu'elle avait divisé en pièces. Et dans chaque pièce, qui était un peu comme des pièces de maison, vous voyez, on trouvait des éléments qui, pour elle, représentaient une sorte de force visuelle intime. Par exemple, dans une pièce, elle avait installé une collection de robes et de manteaux dont on pouvait supposer que c'était peut-être les siens, peut-être ceux de sa fille, peut-être ceux d'une époque, ou peut-être rien du tout d'ailleurs de tout ça, mais un choix peut-être arbitraire, mais qui commençait à faire en sorte que le spectateur se dise « Ben oui, je suis dans une pièce entourée de vêtements qui ont l'air vieux, qui ont l'air usagés, qui ont une histoire, un passé, qu'est-ce que ça m'évoque à moi ?» Et vous voyez que dans cette démarche de l'art contemporain, cela suppose une véritable activité du spectateur, en réalité. C'est-à-dire qu'il faut que le spectateur, non seulement, ou le visiteur, le contemplateur, je ne sais pas comment il faut dire, il faut non seulement qu'il résiste à une première réaction qui serait peut-être de se dire « Mais ça, c'est de l'art, en quoi ? Comment ça marche ? C'est trop déconcertant, je me retire, je m'y refuse. » Il faut non seulement qu'il accepte de jouer le jeu, mais en plus, il faut qu'il le joue véritablement, c'est-à-dire qu'il entre dans une démarche intérieure qui voit dans quelle mesure il y a des réminiscences, dans quelle mesure il y a une sorte de réaction produite sur lui par l'œuvre. Voilà, et du coup, l'art contemporain, ben, ça peut être dans l'installation, ça peut être la performance, c'est-à-dire, vous savez, un artiste qui va faire quelque chose devant vous. Par exemple, il y a eu toute une école qui s'appelait Fluxus dans les années 70, qui était très axée sur cette forme d'expression. Et on voyait, par exemple, une artiste qui avait une pierre sur la tête et qui, au bout d'un moment, l'a laissée tomber. Et voyait, regardait toujours de quel côté elle tombait. Et c'était cette sorte de répétition de la chute qui, pour elle, évidemment, créait une sorte de dimension artistique. Voilà. Et puis, on en arrive, vous voyez, actuellement, où l'art n'est même pas ne laisse même pas forcément de traces. Actuellement, au palais de Tokyo, à Paris, il y a une très importante manifestation d'un artiste qui s'appelle Tino Segal, qui, lui, ne pratique ni la peinture, ni l'installation, ni même vraiment la performance. Il organise des sortes de spectacles. Là, bon, il est dans le palais de Tokyo, un immense immeuble. On y fait l'obscurité. Et dans cette obscurité, il a 200 assistants qui sont là, de tous âges, des enfants, des gens plus âgés, etc., qui travaillent pour lui. Le visiteur entre dans cette obscurité. Il ne sait plus où il est. Ça y est, il y a une sorte de rupture, de cassure avec son quotidien, sa banalité, avec ses habitudes, avec tout ce qui le sécurise. Et puis au bout d'un moment, par exemple, il sent la main d'un enfant qui l'attrape comme ça, toujours dans l'obscurité, qui lui dit « Viens avec moi, j'aimerais que tu m'expliques ce que tu entends par le progrès au juste. » Alors voilà, le visiteur devenu en réalité acteur à son tour... il apprécie, soit il peut refuser le dialogue, il peut rompre les choses, il peut s'en aller, il peut aller ailleurs, soit il va commencer à essayer de parler avec l'enfant. Et de la même façon, récemment au centre Pompidou, nous avions une troupe de danseurs contemporains qui avaient investi une salle d'exposition. Ils avaient pour particularité d'être tous nus, mais ce n'était pas une nudité esthétique, je dirais, puisque c'était des gens, souvent, comme on trouve dans la danse contemporaine, qui sont certains un peu gros, certains un peu petits, etc. Hein, ce n'est pas des corps travaillés, comme on l'imaginait dans la danse classique. Et ils étaient installés au milieu d'une grande salle d'exposition, immobiles. Et puis, petit à petit, ils construisaient des sortes de sculptures vivantes. Le public était tout autour, le public habillé, lui, évidemment, avec cet effet déjà que produit cette rencontre entre un groupe de gens tout nus et autour des spectateurs tout habillés. Et puis, progressivement, mais de manière très très lente, certains membres du groupe des danseurs se rapprochaient des spectateurs et engageaient la conversation. Engageaient la conversation de manière très normale, en disant, mais alors... quelle sorte de vie vous menez, vous avez quelle profession, etc. Et on se retrouvait en train de discuter avec une personne qui était un artiste dans sa nudité. Et on se rendait compte quand même qu'au-delà de la provocation, au-delà de la transgression immédiate, il y a des choses qui se passent, une sorte de, par exemple, de réflexion sur ce que c'est que la tolérance, sur ce que c'est que les idées préconçues, sur ce... Voilà. Et précisément, ce qu'essaye de faire l'art contemporain, c'est de rompre avec les idées préconçues, et d'essayer d'avoir la plus grande tolérance intellectuelle possible, je dirais. Voilà. Ah, vous savez qu'on est allé jusqu'à pratiquer aussi ce que l'on appelle le land art, c'est-à-dire l'artiste s'installe dans la nature. Par exemple, il achète des champs, et avec ces champs, il va créer une œuvre qui durera ce que peut durer le champ, les saisons, la nature, etc. Il la photographiera. Ce sont des artistes, finalement, qui, de plus en plus, savent travailler sur tous les registres, savent utiliser tous les médias. Certains, d'ailleurs, sont à la tête même de sortes d'entreprises, parce que une des caractéristiques de l'art contemporain, c'est que très souvent, le fait pour l'artiste d'agir lui-même directement, soit en peignant, soit en sculptant, devient un peu secondaire. On a souvent affaire à des artistes qui sont avant tout des concepteurs, qui imagine les choses. Et alors, il va faire appel à des ouvriers, il va faire appel à des assistants ou à des entreprises. Et donc se retrouver finalement à la tête de petites entreprises de 100 ou 150 personnes. Un autre phénomène de l'art contemporain qui me paraît marquant, c'est le phénomène des collectifs. C'est-à-dire qu'on voit se développer, pas forcément tellement en Occident, mais plutôt dans des pays émergents, notamment en Amérique, on voit se développer des groupes d'artistes, en Indonésie aussi, au Pakistan aussi, des groupes d'artistes qui travaillent ensemble, chacun ayant d'ailleurs plus ou moins sa spécialité, mais qui essayent de mener une action sociale, une action d'éducation, une action d'intervention dans la société, vous voyez, surtout dans des pays fragiles ou dans des pays compliqués, comme le Pakistan, par exemple, à l'égard d'artistes. En Colombie, on trouve beaucoup de ces collectifs, et notamment dans une ville comme Medellín, qui était une ville, c'était la ville du baron de la drogue, hein, c'était une ville très, 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 très peu rassurante. Ben, ils sont arrivés à reconstituer un tissu social par leur action, plus ou moins coordonnée, avec le gouvernement. Et j'en viens à un aspect donc, qui est très important, je crois, dans la cartographie de l'art contemporain, c'est qu'elle est mondialisée. Autrefois, l'art, ce fut Paris. Jusqu'en 1939, disons, pour les raisons qu'on comprend, après, ça a changé. Jusqu'en 1939, les grands artistes, les modernistes, ceux qui faisaient l'innovation, ils étaient à Paris. Picasso, Giacometti, Modigliani. Ils n'étaient pas forcément français, d'ailleurs, hein, vous le remarquerez. Hein, aucun de ces trois ne l'était. Hein. Mais ils étaient à Paris, parce que c'était Paris qui était la capitale de la modernité. La Deuxième Guerre mondiale a fait qu'il y a eu un grand déplacement des intellectuels vers New York, et à partir de 1945, la peinture contemporaine, l'abstraction lyrique, tous ces phénomènes-là, ça se fait à New York. Et puis, actuellement, on arrive à une situation où les scènes artistiques sont multiples. L'Amérique, toujours. Berlin a pris une très grande place. Berlin, notamment, a su faire en sorte que les artistes se fixent, que les artistes aiment installer leurs ateliers dans la ville, qui était cette ville très bizarre, hein, cette ville prise dans les étaux de l'histoire, et puis cette ville aussi qui avait deux caractéristiques, une sorte de très très grande tolérance culturelle et un prix de l'immobilier très bas, c'est-à-dire pour les artistes, c'était deux considérations importantes. Et bon, il faut bien avouer que Paris, maintenant, point de vue du travail artistique, est devenu moins riche, moins intéressant sûrement. De plus en plus à Paris, nous avons plutôt des marchands que des artistes. Et bon, une démarche, ça consiste précisément à essayer de recréer des ateliers, c'est ce que s'efforce de faire la ville de Paris, recréer des ateliers pour fixer à nouveau les artistes. Il y a une manifestation très importante en France encore qui s'appelle le prix Marcel Duchamp, précisément, et qui donc est destiné à promouvoir la scène artistique française. Je dis la scène artistique française, ça ne veut pas dire des Français, ça veut dire des artistes qui travaillent en France, ou qui ont des liens particuliers avec la France. Cette année, les quatre lauréats de ce prix Marcel Duchamp, ils s'appellent Kader Attia, d'origine marocaine, je crois, ou algérienne. Il s'appelle Barthélémy Togo, qui est camerounais. Elle s'appelle Ita Barada, qui a des liens avec le Maroc, et Ulla von Brandenburg, qui, comme son nom le laisse supposer, est d'origine allemande. Voilà. Quatre artistes qui représentent la scène française aujourd'hui, pour vous dire à quel point ce monde de l'art, vu notamment du côté des artistes, est devenu complètement internationalisé, complètement mondialisé. D'ailleurs, quand vous voulez rencontrer un artiste maintenant, autrefois c'était simple, vous alliez à l'atelier. Et quand vous étiez le président du Centre Pompidou, en général, vous étiez sûr de le trouver. Maintenant, si vous voulez rencontrer un artiste, il y a un travail de rendez-vous qui se fait. Souvent, ils ont encore un petit atelier à Paris, mais vous avez la surprise quand vous y allez de vous rendre compte que, ah ben oui, mais c'est tout propre. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de peinture là-dedans, parce qu'en réalité, l'artiste, il est venu spécialement pour vous rencontrer de Berlin, de Tokyo, de Chine, des États-Unis, etc. C'est une caractéristique de l'art contemporain qu'on trouve chez les artistes, mais qu'on va retrouver dans toutes ses dimensions, l'internationalisation. Voilà pour les artistes. Alors, deuxième point dont je voudrais vous parler, ce sont les musées. Il s'est passé des choses spectaculaires dans le domaine des musées. Le musée, autrefois, vous vous souvenez, c'était un endroit très silencieux, très tranquille. Sorte de sanctuaire, on y entrait un peu comme on entre à l'église, en ayant très peur de faire du bruit ou de faire résonner ses semelles. Ben, tout ça a complètement changé. Je dis complètement. On peut trouver encore sans doute des petites villes où il y a quelque part un musée qui vit encore un peu de cette façon-là. Mais globalement, le modèle du musée tel qu'on l'imaginait là, complètement changé. Exemple, ben, on va prendre le Centre Pompidou quand même. On est en 1971-72, président de la République française s'appelle Georges Pompidou. Georges Pompidou a été très impressionné par mai 68, on comprend. Et il a eu un sentiment que tout le monde d'ailleurs n'a pas eu, n'a pas forcément partagé, mais lui l'a perçu. Il a eu le sentiment que dans la modernité de la société française, il y avait une sorte de décalage, avec d'un côté une très forte modernité technologique, les sciences, Concorde, tous les progrès, les grandes entreprises françaises, et de l'autre côté une sorte de, de retard culturel, comme si culturellement, du point de vue des mœurs, point de vue à la fois de la morale et de la culture en général, la France restait dans un état antérieur. Et pour le président Pompidou, c'était notamment cette sorte de décalage entre un développement scientifique, un développement social, et puis une sorte d'arrêt sur image du point de vue de la culture et des mœurs, qui pouvait être l'une des explications de l'explosion de mai 68. Bon, il se trouve par ailleurs que le président Georges Pompidou, tout en ayant une culture très classique et des opinions très droitières, était un grand amoureux de l'art contemporain. Il n'a pas eu beaucoup. Lui, il était. Et puis, il se trouve aussi qu'il était profondément agacé par le conservatisme de l'administration, notamment cette terrible administration de la culture, l'administration des Beaux-Arts, qui, vous l'imaginez, était une administration qui n'aimait pas forcément la nouveauté, l'innovation. Et donc, finalement, il s'est dit, ben, moi, je vais faire une rupture très forte. Je vais installer un nouveau centre de culture qui ne ressemblera à rien de ce qui existe vraiment. Je vais le mettre au milieu des quartiers historiques, dans le Marais. Je vais demander une architecture qui soit spectaculaire. Alors, vous voyez, on commence à voir finalement, là, se profiler les nouveaux grands musées contemporains. Hein, le centre des villes et ce qu'on appelle le geste architectural, c'est-à-dire quelque chose qui retient l'attention, hein, quelque chose de fort. Pensez, je ne sais pas, à Guggenheim à Bilbao, par exemple. Pensez à la Fondation Vuitton, plus récemment. Hein. Pas tout à fait au centre, mais le geste architectural y est. Et puis, le problème, c'était qu'à cet endroit-là, on devait aussi installer une grande bibliothèque publique, parce que Paris manquait de salles de lecture publique. Et alors, finalement, les concepteurs du projet, Pompidou notamment, ont refusé de choisir. Au contraire, ils se sont dit, bah, très bien, on va mettre là à la fois un centre d'art et une bibliothèque, comme ça, bah, tous les jeunes gens qui vont à la bibliothèque, ils pourront passer dans le centre d'art. Et ça sera en quelque sorte une pédagogie de l'art que ce rapprochement d'une bibliothèque et d'un centre d'art. Ah oui, mais alors un centre d'art, c'est quoi? C'est un musée. Au départ, on ne voulait même pas utiliser le terme musée. Il y avait, au centre Pompidou, il y avait un département des peintures. Parce que musée, ça évoquait trop la tradition et le conservatisme. Et donc, on a décidé que ben, non seulement ça ne serait pas un musée classique, mais qu'en plus, il y aurait des spectacles. Il y aurait du spectacle vivant, il y aurait de la danse, il y aurait de la musique. Et enfin, ben enfin Pierre Boulez est arrivé, vous savez, le grand compositeur, et a dit, ben moi j'aimerais beaucoup avoir dans cette zone-là, dans cette sphère, un institut de recherche musicale. Et c'est comme ça qu'on a créé l'IRCAM, et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce centre Pompidou, où il y a à la fois des arts plastiques, du spectacle, de la musique contemporaine, et une grande bibliothèque, une grande salle de lecture, un grand immeuble de lecture publique. Et vous voyez, ça c'est le nouveau modèle, c'est-à-dire c'est décloisonné, c'est un dialogue des différents arts entre eux, ça va même au-delà de l'art, c'est de la culture plus globalement prise, et puis il y a l'architecture. Quand on a porté la maquette retenue par le jury de concours au Centre Pompidou, président Pompidou, il a eu une seule réaction, il a dit « Oh là, ça va gueuler ah !» Effectivement, ça a gueulé. Hein. Saint Pompidou, ça a été une très très longue polémique. On appelait ça Notre-Dame des tuyaux, on appelait ça la raffinerie, etc. Hein. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'était le contraire d'un musée de, au moins, deux points de vue. Premièrement, parce que il n'y avait pas ces salles d'exposition fermées sur elles-mêmes. Il y avait une sorte d'immense surface, type industrielle, ben, habitez-le, occupez-le, comme vous pouvez, comme vous voulez. Et de la même façon, le Centre Pompidou, il était conçu pour être un lieu de circulation. C'est-à-dire qu'on pouvait y entrer de quatre côtés. Il y avait une grande place devant, qui pouvait accueillir des manifestations dans tous les sens du terme. Les gens pouvaient entrer gratuitement, pouvaient circuler. Ils pouvaient finalement décider d'aller au musée, d'aller voir une exposition, d'aller voir un spectacle. Dans certains cas, il leur faudrait payer. Mais de toute façon, il pouvait toujours y avoir cette circulation-là. Je parle un peu à l'imparfait, là, parce que depuis, ben, nous avons eu Vigipirate. Et donc, on a été obligé de supprimer toutes les entrées, sauf une, pour installer des systèmes de contrôle. Et donc, ça a un peu changé l'esprit. Mais vous voyez, cet esprit-là, finalement, c'est un esprit aussi qui a été repris par beaucoup d'institutions culturelles. C'est l'idée qu'il faut supprimer le seuil. C'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent entrer dans un lieu culturel sans se dire, mon Dieu, j'entre au sanctuaire, j'entre dans une église, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je suis digne? Est-ce que je vais comprendre? Il faut qu'ils puissent entrer naturellement. Et je ne sais pas si vous avez l'occasion, par exemple, ça m'avait beaucoup impressionné, si vous avez l'occasion d'aller à Lille, vous verrez à Lille des lieux comme le Tripostal ou d'autres, qui ont vraiment été aménagés, notamment pour que l'entrée se fasse en prenant un pot, quoi. C'est-à-dire, on entre dans une cafétéria. Et c'est une fois qu'on est dans la cafétéria qu'on se rend compte, ah, mais oui, mais en fait, derrière, il y a des œuvres. En fait, c'est un lieu de culture. Voilà. Ce modèle-là, il a été très largement suivi, très largement épousé, même par le Louvre, je dirais, c'est-à-dire que le Louvre, le musée du Louvre lui-même, grand représentant de la tradition, s'est mis à faire des spectacles, s'est mis à faire de la musique, s'est mis à faire de la danse. Les grands musées américains, bien entendu, le MoMA, par exemple, la Tate Modern en Angleterre, à Londres, toutes ces institutions se sont mises à pratiquer la pluridisciplinarité, à essayer de rompre les cloisons entre les arts. Et puis, il y a eu une dernière chose, une sorte de dernier événement, c'est le phénomène des expositions. C'est-à-dire que tout à coup, on s'est rendu compte qu'organiser une exposition de peinture pouvait faire venir des foules. Ce qui était un phénomène absolument nouveau. Et on s'est rendu compte que ce phénomène se répétait, c'est-à-dire que ça devenait véritablement une sorte de constante d'évolution de la société. Et c'est comme ça qu'on a vu la fréquentation de ces musées croître. Sans Pompidou, on reçoit entre 3 millions et 3 millions et demi de personnes par an. Actuellement, on a une exposition sur Magritte. Alors Magritte, c'est un bon sujet parce que les gens ont l'impression de connaître et en même temps, si on trouve un angle d'attaque un peu original, ça les fait venir. Magritte reçoit 6 000 personnes par jour. Donc vous voyez, c'est des seuils de fréquentation qu'on n'imaginait pas il y a 20 ans ou 30 ans. Une grande exposition maintenant au Centre Pompidou, ça représente 600 000 personnes. Et alors, évidemment, il s'en est suivi divers phénomènes, divers mécanismes, et notamment le fait que les musées ont investi, les musées ont commencé à s'agrandir, les musées ont commencé à se développer, et peut-être du coup, d'ailleurs, à s'engager dans des situations financières un petit peu fragiles, un petit peu problématiques. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, les artistes, les musées. Parlons un peu des acheteurs. On va parler d'argent. Il y avait autrefois une sorte de schéma, c'était que on avait des collectionneurs, c'était des gens très cultivés, passionnés par les arts. On avait des galeristes. Les galeristes, ils étaient là pour, bien sûr, gagner de l'argent, mais en même temps pour aider les artistes à se faire connaître, pour aider les artistes à grandir, à fabriquer une œuvre. Souvent, ils produisaient eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils avançaient l'argent pour la fabrication de l'œuvre. Alors, vous savez, il y en a des célèbres, j'en citerai deux, c'est Paul Rosenberg et Daniel-Henri Kahnweiler, qui ont été les galeristes de Picasso, de Matisse ou de Braque. Les musées, ils achetaient très peu à l'époque, de l'art contemporain, de l'art moderne, ils n'en voulaient pas vraiment, tellement qu'on a fini par créer des institutions que l'on a appelé les fonds régionaux d'art contemporain, FRAC, spécialement conçus pour acheter de l'art contemporain de proximité, je dirais, dans les régions. Ce système-là est en train de voler en éclat. Et il vole en éclat, notamment, pour la raison très simple, qui est que l'art contemporain est devenu un marché, un véritable marché, et en même temps un marché très spécial. un véritable marché, je veux dire qu'il y a des fortunes qui se jouent en la matière, et un marché très spécial parce qu'on s'est rendu compte, notamment pendant les grandes crises économiques, que c'est un marché qui ne connaît pas de crise. Alors on s'est demandé pourquoi il ne connaît pas de crise. Et finalement, on s'est dit que c'était très largement parce qu'il n'avait pas de contrepartie matérielle. Je veux dire que, à partir de quel moment vous considérez que votre tableau a perdu de l'argent, a perdu de la valeur? Le mystère, c'est comment l'a-t-il gagné, plutôt. C'est-à-dire par quel phénomène très complexe. On en arrive à dire qu'une œuvre de Jeff Koons vaut tant de millions d'euros ou de dollars. Parce que c'est Jeff Koons, parce qu'il a une certaine personnalité, parce que M. Pinault, le milliardaire bien connu, a acheté du Jeff Koons, et donc tous les autres milliardaires se disent « mais moi je veux du Jeff Koons » puisque ça a l'air d'être quelqu'un de très très important et il faut l'avoir. Donc il y a un phénomène de standing, je dirais, dans la façon d'acheter de l'art contemporain, qui fait que, notamment, on a vu arriver sur le marché des gens qui n'étaient pas les collectionneurs très cultivés de l'époque, mais qui étaient simplement les grands capitalistes, notamment sur les marchés asiatiques. Des anciens chauffeurs de taxi chinois qui se sont enrichis, qui ont constitué d'immenses sociétés de transport de personnes, ils se sont mis à acheter de l'art. Et ils ont voulu avoir des musées. Parce que le musée est devenu une sorte de... Le musée privé est devenu une sorte de symbole de la réussite. Vous voyez, pour certains, il y a la Kelton, ou le... Je ne sais comment ça s'appelle, les montres de luxe. Non, c'est pas Kelton. La Rolex, voilà. Pour certains, il y a la Rolex. Et moi, je ne connais pas. Pour d'autres, il y a... Pour d'autres plus riches, il y a le musée. On a calculé que sur ces dernières années, en Asie, il y avait un musée qui se crée chaque jour. Et je dois dire que moi-même, j'en ai fait l'expérience récemment, puisque je suis allé à Shanghai, puisqu'on a un projet, j'y reviendrai peut-être, d'installation à Shanghai. Et je commençais à discuter avec le premier secrétaire du Parti communiste du lieu, puisque c'est avec lui qu'on discute. Je lui ai dit, ben oui, ça serait bien, mais alors j'ai vu des hangars, là, ça serait intéressant, peut-être ça nous ferait un lieu pour nous installer. Oh, il m'a dit, vous préférez pas un musée tout neuf? Oui, oui, enfin, si vous avez... Justement, on est en train d'en construire. Ah bon, mais c'est pas gênant pour les gens à qui c'était promis. On l'a promis à personne, on ne savait pas ce qu'on y mettrait, de toute façon, donc ça va très 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 bien. Voilà. Et donc, il y a ces musées qui se créent très très rapidement. Là, notre musée de Shanghai, on l'aura dans un an. Et le problème, c'est que ces musées sont vides. Et donc, lorsqu'il s'agit de musées privés, la première préoccupation du fondateur, ça va être d'y mettre des chefs-d'œuvre dedans. Donc il va se porter sur le marché, lui-même ou ses représentants, et il va vouloir acheter des chefs-d'œuvre d'art contemporain, d'art moderne. Et immédiatement, on va avoir ce phénomène classique dans la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire une très très forte hausse des prix. Concernant des œuvres qu'en plus on ne va pas revoir sur le marché, parce qu'une fois qu'elles seront dans le musée, elles n'en sortiront plus. Donc ça aussi, ça va contribuer à une sorte d'économie de pénurie qui va faire que les prix vont devenir fixes. Fixe à un niveau très élevé. Voilà. On a vu aussi se développer, dans cette sorte de grande créativité du marché de l'art contemporain, on a vu se développer les formules mixtes. C'est-à-dire le milliardaire asiatique qui se dit « Ah, mais l'art contemporain, ça a l'air de marcher très fort. Moi, ma spécialité, ce sont les centres commerciaux. » Vous savez, c'est une sorte de grand mall qu'on a en Asie. Ben, je vais installer de l'art dans le centre commercial. » Ça, pour les conservateurs du centre Pompidou, ça les fait blêmir, de l'art dans un centre commercial. En Asie, ça marche très très bien. Et on peut passer, dans des centres commerciaux qui sont très très luxueux d'ailleurs, on peut passer du rayon vêtements, par exemple le rayon vêtements de mode, à la salle où on expose en réalité des œuvres de Giacometti. Sachant d'ailleurs qu'entre la mode et l'art contemporain, il y a eu des relations de plus en plus étroites. Et que j'ai même vu en Chine présenter dans des grands musées des expositions de couturiers, en réalité, au Japon aussi. Voilà. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? À partir de là, l'art est devenu une sorte de manifestation du pouvoir et de l'influence. Et c'est là qu'on retrouve les États, les jeunes États notamment, qui ont fait fortune dans le commerce, qui ont fait fortune dans l'économie, qui se sont développés dans le domaine de la haute technologie. Je pense à Singapour, par exemple. Vous savez, Singapour, c'est une sorte d'île très riche qui a voulu être le hub du sud-est asiatique. Donc, elle a fait venir des capitaux de partout. Et c'était des gens à Singapour qui étaient parfaitement pragmatiques, qui ne pensaient que comment on peut gagner davantage d'argent. Ils en sont arrivés quand même au point où ils se sont dit, mais est-ce que la culture, est-ce que l'art contemporain n'est pas une manifestation de puissance? Et si oui, pourquoi? Ah, peut-être parce que l'art contemporain, c'est une garantie d'ouverture des esprits dans une population. C'est la garantie que la population est suffisamment tolérante et suffisamment imaginative pour être capable ensuite de développer des produits, pour être capable d'être les meilleurs dans le domaine des hautes technologies. Et c'est comme ça que Singapour a commencé à s'intéresser à l'art contemporain. Alors du coup, bah, ils ont complètement refait leur musée, ils ont réquisitionné le Conseil constitutionnel pour agrandir le musée. Avec ça, ils ont fait appel évidemment à un architecte français pour avoir le beau geste architectural. Et la nouvelle Galerie nationale de Singapour s'est ouverte l'an dernier avec un discours du ministre des Finances qui expliquait, bah, vous savez, moi vraiment, je faisais partie, d'ailleurs, on n'imaginerait pas ça en France, moi je faisais vraiment partie des gens qui étaient contre. Hein. Vraiment, j'ai essayé de faire en sorte que ce musée ne se crée pas. Mais bon, ça coûte cher. Mais je suis très content qu'il ouvre parce que je considère, maintenant, ça y est, je suis convaincu que c'est très important pour l'avenir de notre jeune État. Et c'est pour des raisons un peu comparables que Abu Dhabi, par exemple, vous le savez, a voulu avoir son Louvre et donc a acheté la marque. Et désormais, ben, dans quelques mois, ouvrira le Louvre d'Abu Dhabi, qui a été entièrement conçu en réalité par un consortium de musées, où il y a le musée du Louvre, il y a le Centre Pompidou, il y a le musée d'Orsay, etc. Clé en main. L'idée étant que progressivement, les responsables d'Abu Dhabi prendront le relais. C'est un musée, bien sûr, qui n'a aucune collection. À Abu Dhabi, il n'y a pas de collection publique d'art. Et donc, c'est nous qui fournissons. C'est-à-dire que nous leur louons des œuvres. Le Louvre loue des œuvres. Nous louons des œuvres. Ça nous fait un peu d'argent, c'est bienvenu. Et progressivement, on va les aider à acheter leurs propres œuvres. Et progressivement, on reprendra les nôtres. Voilà comment on en arrive à ces phénomènes, à ces mécanismes internationaux dans le domaine de l'art contemporain. Alors, le problème, hein, quand même, c'est que maintenant, les musées qui veulent acheter, ben, ils ont beaucoup de mal quand on n'est pas à Abu Dhabi. Pour vous donner une idée, nous, on a un budget d'acquisition de 1,5 million d'euros pour l'année. 1,5 million d'euros, vous n'avez rien, si j'ose dire, dans le domaine de l'art contemporain. D'ailleurs, les œuvres qui entrent dans notre collection, ça représente entre 20 et 30 fois ce montant chaque année. Alors, comment? Ben, tout simplement parce que on nous les donne. Alors, on nous les donne dans quelles conditions? Ben, on nous les donne parce qu'il y a des systèmes fiscaux intéressants en cas de succession, pour les donations, pour les dations. Donc, c'est quand même de l'argent que perd l'État, d'une certaine façon. On nous les donne aussi parce que des artistes ou des galeristes souhaitent nous en donner. Et c'est là qu'il faut faire très attention, vous voyez. Et c'est là que peuvent vite venir les problèmes de déontologie. C'est que si ces artistes ou ces galeristes veulent nous donner des œuvres, ce n'est pas toujours de la pure générosité. C'est parce que le fait que leur œuvre soit dans la collection du Centre Pompidou, ben, va faire monter sa cote. Et donc, voilà, dans des périodes difficiles, on a pu voir des expositions qui étaient financées aux deux tiers, aux trois quarts par des galeristes, avec promesse qu'une partie des œuvres resterait à la fin. Et donc là, on voit s'instaurer de nouveaux systèmes économiques, quelque sorte. Mélange public, privé, des musées qui sont devenus à la fois puissants et en même temps fragiles, et qui donc sont un peu obligés de rentrer dans ces dispositifs-là. La question, c'est de savoir vers quoi on va. D'autant que une autre source de revenus que l'on avait, qui était très importante, qui étaient les mécènes, a en grande partie disparu. D'abord parce que les mécènes traditionnels s'intéressent peut-être moins à l'art aujourd'hui et s'intéressent plus à l'écologie, au développement social. Et puis aussi et surtout parce que les plus riches de nos mécènes Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont créé leur propre fondation. C'est-à-dire qu'à la différence, notamment des pays anglo-saxons, où il y a beaucoup plus de gens riches qui se sentent redevables de quelque chose à la société, hein, qui disent, ben, maintenant, j'ai gagné tout cet argent, je dois le rendre. Et je dois le rendre notamment par le musée, parce que le musée, c'est le lieu même du consensus social. C'est le lieu de la richesse sociale. C'est là que je vais déposer mon argent. En France, ça marche très peu comme ça. Et c'est comme ça qu'on a vu notamment Bernard Arnault, qui est sans doute probablement l'homme le plus riche de France, créer sa fondation. C'est là qu'on a vu François Pinault créer sa fondation. Et ces fondations, ben, elles reçoivent l'argent que nous n'avons plus, il faut bien le dire. Actuellement, il y a une exposition à la fondation Arnault. On expose la collection Tchoukine. Tchoukine, c'était le plus grand collectionneur russe qui avait accumulé pendant une collection incroyable, immense. Picasso, Matisse, Braque, les impressionnistes, les post-impressionnistes, Monet. C'était absolument magnifique. Tout ça, ben, ça a été transféré du musée de l'Ermitage et de je ne sais plus quel autre musée en Russie, dans le bois de Boulogne, fondation Vuitton. Aucun des musées, des grands musées parisiens, n'aurait eu les moyens d'organiser une exposition pareille. Donc vous voyez, la puissance maintenant, en fait, dans le domaine de l'art, elle finit par se trouver très largement du côté des entreprises privées. Et puis, j'ajouterai le grand système des foires et des salles des ventes. Vous savez, il y a deux grands marchands. Sotheby's et Christie's, qui contrôlent l'essentiel des ventes d'art, en tout cas une grande partie. Et puis il y a de plus en plus des foires très très, très, très puissantes. Il y a une foire à Bâle, il y a la FIAC à Paris, qui s'est tenue récemment, il y a Frise à Londres, et ces foires deviennent des lieux où véritablement l'économie de l'art se détermine. C'est-à-dire que c'est là qu'on achète, c'est plus chez le galeriste. Les galeries, si vous y allez, c'est devenu des sortes de petites salles d'exposition. C'est presque vide. Hein. Les lieux où l'on achète, où l'on vend, où l'on négocie, ce sont les salles des ventes, les sociétés de marché et ces grandes foires. Alors, il y a quand même un acteur dont je dois parler, c'est le public. Alors, on ne dit plus le public, on dit les publics maintenant. Et je crois qu'on n'a pas forcément tort. Si vous regardez qui entre dans un centre d'art, dans un musée désormais, vous avez deux possibilités. Si vous allez au Louvre, statistiquement, ce sera un étranger, un touriste. Et ça sera ce que l'on appelle un primo-visiteur. Je veux dire que c'est la première fois qu'il vient, et il ne reviendra plus. Ou alors s'il est petit, il reviendra quand il sera grand avec sa famille, pour que ses enfants voient la Joconde. Le Louvre, il a un public qui est à 75% un public de touristes. Et donc, d'ailleurs, s'il y a des événements terroristes, la fréquentation du Louvre chute immédiatement, dramatiquement. Si vous regardez les gens entrer au centre Pompidou, vous avez deux chances sur trois pour que ce soit un Parisien ou un Francilien, et de toute façon un Français. C'est-à-dire que le public de touristes est minoritaire, il représente un tiers à peu près. Alors, comment ça s'explique ? Ben, c'est parce qu'au Louvre, il y a ce qu'on appelle des icônes, c'est-à-dire des œuvres qui ont une sorte de réputation mondiale, la Joconde, et on va voir la Joconde. Au Centre Pompidou, il y a des expositions, avant tout. Des expositions qui ont beaucoup de prestige, et les Parisiens adorent aller voir des expositions. À partir de là, évidemment, le problème, c'est de savoir pour quel public on travaille, les touristes ou les Parisiens. Parisiens, ils détestent voir des groupes se promener dans les musées. Ça les gêne. Les touristes, ils se déplacent beaucoup en groupe. Alors, comment on arrive à articuler ça? C'est un problème qui pose des questions stratégiques. Puis il y a un autre problème. C'est, lorsqu'il s'agit de Français, lorsqu'il s'agit de Franciliens, c'est quel type de public, au juste, qui vient là, qui rentre au Centre Pompidou? Entre 50 et 60%, ce sont ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles supérieures. Et de manière très, 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 très minoritaire, des ouvriers ou des employés. Alors que le Centre Pompidou, il était fait pour démocratiser l'accès à l'art. Alors, c'est quoi cette démocratisation ? En réalité, on se rend compte qu'on a finalement trois cercles, je dirais. On a une sorte de noyau, ce sont les habitués, l'entre-soi, les spécialistes de l'art contemporain, les grands amateurs qui viennent, dès qu'il y a quelque chose d'un peu pointu, d'un peu exigeant, ils sont là, vous les voyez. Il y a un deuxième cercle qui est un public, qui est le public des gens cultivés, je dirais. C'est-à-dire le public des gens qui se disent « Ah, cette exposition-là, je ne peux pas la rater, parce que sinon, si j'en parle à mes amis, je ne serai pas satisfait. » Je caricature un petit peu. Et puis, vous avez le troisième public, qui est le public aléatoire, c'est-à-dire celui qu'on cherche, celui qu'on a du mal à trouver. Par exemple, celui des jeunes qui travaillent dans la bibliothèque d'à côté, et qu'on a beaucoup de mal à faire traverser des cloisons, et à faire passer du côté du musée, du côté des expositions d'art contemporain. Alors on en est là, on a un peu tout essayé, on a notamment beaucoup développé l'éducation pour les enfants, les ateliers d'enfants. Le problème, c'est que quand je vais le samedi voir fonctionner ces ateliers d'enfants, très souvent j'y rencontre les enfants de mes amis, ce qui n'est pas exactement l'objectif recherché. Alors que faire ? On a essayé du coup d'amener l'art vers le public. Et notamment, on avait créé, c'était avant que j'arrive, ce qu'on appelait le Pompidou Mobile, qui était conçu un peu comme les cirques, c'était un chapiteau. Sauf que c'était un chapiteau qui était là pour héberger un Matisse, un Picasso, etc. Donc il y avait des caractéristiques techniques tout à fait spéciales, notamment en termes de conditionnement. Les gens venaient. On a mené le Pompidou Mobile dans une petite ville où il n'y avait aucune tradition artistique. Les gens venaient. C'était une sorte d'événement. Ça posait simplement deux problèmes, ou trois. Premièrement, on n'était pas sûr qu'une fois qu'ils étaient venus là, ils iraient voir autre chose. Deuxièmement, ça nous coûtait un argent fou. Troisièmement, le petit musée d'à côté nous disait « Vous savez que ce que vous consommez là en restant pendant 15 jours sur la place du village, c'est notre subvention annuelle, ou même plus. Vous le savez, ça. Voilà. » Donc l'expérience a été arrêtée. Et aujourd'hui, on réfléchit à d'autres formules. Alors, il y a une expérience qui a été une expérience de décentralisation, c'est qu'on a mis un centre Pompidou à Metz, de la même façon qu'on a mis un Louvre à Lens. Bon, il faut s'accrocher, hein, c'est-à-dire, il y a des élus ici qui savent ce que c'est. Expliquer à des élus locaux que, ben oui, il va falloir que ils dégagent entre 10 et 15 millions chaque année pour faire fonctionner une institution. Alors que ben, leur habitude, c'est plutôt la myriade d'associations que l'on subventionne de ci, de là. Tout ça pour faire des expositions sur des sujets ben, qui ne sont pas, évidemment, des sujets qui se présentent immédiatement comme un grand public, même si on essaye de faire en sorte que ça intéresse un vaste public. Ben, ce n'est pas facile. Et puis, on a un autre projet, alors, qui est d'installer le Centre Pompidou lui-même en banlieue, dans la grande banlieue parisienne. On a des réserves, là, qui sont pleines. Donc, il faut qu'on trouve des locaux pour installer des réserves plus vastes, qui nous coûtent moins cher que dans le centre de Paris. On s'est dit, ben, on va en profiter. On va mettre nos réserves en Seine-Saint-Denis ou par là-bas. Ce seront des réserves le plus possible ouvertes, où les gens pourront circuler, pour avoir une vision de l'art qui soit une vision plus concrète, moins intellectuelle. Et en plus, on construira des expositions, on construira des animations qui seront faites avec eux et pour eux. Ah voilà, ça c'est notre grand projet, objectif 2020. On va voir si ça marche, les gens vont voir si on trouve l'argent pour le faire. Et puis ensuite, on verra si on trouve le public. Il y a quelque chose de toute façon qui est absolument crucial, et ça pourrait être ma conclusion, c'est que sans éducation artistique, c'est pas la peine de faire venir le public. Je veux dire que si vous voulez intéresser à l'art contemporain, il faut le faire avec des enfants. Il faut le faire dès que les gens sont jeunes. Et c'est comme ça qu'on va en quelque sorte rompre les cadres qui leur permettront ensuite d'accepter l'art contemporain, de s'y investir. On a essayé au Centre Pompidou de mettre en place une sorte de petite télévision scolaire qui s'appelle Mon œil, qui est une nouvelle façon d'approcher l'art contemporain. Et puis on va carrément faire une école sur Internet, à partir de nos ressources, à partir de nos vidéos. Et ça sera, vous voyez, une école pas genre histoire de l'art, on commence, Renaissance, modernisme, etc. Ça sera une école où on partira de notions les plus concrètes possibles. On va partir de la notion détruire ou rassembler. Et on verra ce que représente pour un artiste le fait de détruire. On verra ce que représente pour un artiste le fait d'assembler. Et à partir de ce que l'on verra concrètement, à partir d'images des œuvres, on entendra aussi des conservateurs, on entendra des gens du musée, mais on entendra aussi des scientifiques qui expliqueront comment l'art se construit à partir de désirs, à partir d'enjeux, à partir d'objectifs, et pas à partir de questions d'école. Voilà, écoutez, je crois que j'ai déjà parlé trop longtemps, donc je m'arrête là. Merci.
Nous allons passer un petit moment à des questions. Je rappelle simplement qu'à la fin des questions, il y aura un repas partagé, enfin une auberge espagnole qui vous attendra de l'autre côté des portes. Voilà. Le moment des questions. Qui peut en poser? Qui veut démarrer?
Moi, je viens démarrer. Une question simple pour faire venir les gens, c'est la gratuité.
Alors, c'est pas si simple. D'abord parce que la gratuité n'existe pas, je veux dire, ça revient à faire payer le contribuable, hein, c'est bien ça que je voulais dire.
Exactement.
Oui. Bon, ça c'est une question classique. Les Anglais, par exemple, ont un système où vous pouvez aller voir gratuitement les collections permanentes, mais vous payez pour les expositions. Au Centre Pompidou, nous avons mis en place, comme la plupart des musées maintenant parisiens, un système de billets unique, c'est-à-dire vous payez une somme forfaitaire et vous avez le droit de tout voir. Collection permanente, les expositions, tant d'expositions que vous voulez actuellement dans cette ville. Gratuité, ça signifierait donc renforcer les subventions que l'on reçoit de l'État, sachant que ces subventions, elles ont été, durant les 9 dernières années, réduites de 20%. Donc là, je pense que pour l'année à venir, on va être obligé de dire à l'État, on a besoin d'une rallonge, parce qu'il y a eu le terrorisme, il y a eu des événements qui font que nos recettes de billetterie sont plus faibles. J'imagine mal proposer de changer de modèle et de consacrer la gratuité dans la présentation des collections permanentes. J'imagine mal. Une fois cela dit, je ne suis pas sûr que ça ferait forcément venir un public différent. Le Louvre a essayé. Le Louvre a essayé. Nous-mêmes, nous faisons des dimanches gratuits. Nous avons un dimanche gratuit chaque mois. On constate que, ben, du coup, nos habitués viennent plus souvent, et de préférence le dimanche gratuit. C'est-à-dire qu'il y a un effet, d'opportunité. Mais ça n'a absolument aucun impact sur notre fréquentation d'ouvriers, d'employés, de jeunes des banlieues, etc. C'est pas une question d'argent, prioritairement. Peut-être que la question d'argent pourrait venir après. Vous savez, nous avons des systèmes de forfait, c'est-à-dire que si vous payez 35 euros, vous pouvez voir tout ce que vous voulez pendant l'année. 35 euros, je crois que même quelqu'un qui n'est pas très riche peut les payer. Il y a avant tout une question d'attractivité. Et pour arriver à attirer ces publics-là, c'est très 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 difficile.
Vous êtes passé très rapidement sur les FRAC, donc les fonds régionaux d'art contemporain. Moi j'ai une question aussi, il y en a dans chaque région actuellement. Qu'est-ce qui va se passer avec la modification de la répartition régionale, parce que tous ces FRAC ont actuellement des collections. Alors moi j'ai une question à laquelle je ne sais pas répondre, alors que je vous pose. Le financement de l'acquisition des œuvres qui sont stockées actuellement, est-ce que c'est conjoint entre l'État et les régions pour acheter des œuvres? Et ensuite, qu'est-ce qui va devenir de ces œuvres, de ces collections, une fois que les FRAC vont être regroupés dans la nouvelle structure régionale? Est-ce que ça va aller à la nouvelle capitale régionale? Et je présume que vous avez beaucoup travaillé avec eux, ne serait-ce que pour des prêts, enfin, je ne sais pas, d'œuvres avec ces structures-là, qu'est-ce qu'elles vont devenir?
Alors, c'est un vrai beau sujet administratif, les FRAC, très compliqué.
Je suis un fonctionnaire.
Moi aussi. Les FRAC, ils sont là, normalement, pour acheter, pas pour exposer. Or, il se trouve que les FRAC se sont engagés dans des expositions. On sait qu'à Toulouse, par exemple, il y a eu une fusion entre le FRAC et puis le Centre d'art, ça donnait les abattoirs. Les FRAC, ils font l'objet de subsides, du coup, qui viennent à la fois de l'État, des régions, souvent des municipalités. Principalement, ce sont des institutions régionales. Que deviennent les FRAC maintenant qu'on a réduit le nombre de régions? On ne sait pas vraiment. C'est-à-dire que les discussions sont en cours. Si vous regardez la dernière lettre des FRAC, qui ont une sorte de réseau, les discussions sont en cours pour savoir si on va garder tous les FRAC ou si on va les concentrer. Par exemple, dans une région que je commence à bien connaître, parce que c'est là que se trouve le Centre Pompidou de Metz, qui est la région Grand Est. Là, spontanément, la région pourrait considérer qu'un FRAC suffit. Et que puisqu'il y a le Centre Pompidou à Metz, on ne va pas en plus lui mettre un FRAC. Mais on est, disons, dans une sorte de confusion dont je ne sais pas trop comment sortir. Ce n'est pas l'aspect de la régionalisation qui a été étudié le plus en amont. Après, bon, c'est vrai que les FRAC ont des questions de statut aussi, je veux dire. Cette logique qui consiste à avoir des institutions de proximité pour acheter de l'art, c'est quand même une logique un peu dépassée lorsqu'on a affaire à un marché complètement internationalisé.
Oui, mais est-ce qu'il y a des personnes qui
travaillent?
Vous avez pas mal parlé justement de mondialisation, de Paris et de quelques grandes villes. Et nous, on est en milieu rural. Et le monde de l'art en milieu rural, c'est une réalité. Il y a vraiment autre chose à inventer que des grosses institutions qui sont déjà. Et pourtant, il y a plein de choses qui se font, qui s'étayent de droite à gauche. Parce que Paris, on connaît, mais bon, on n'y vit pas.
Non, mais comment dire les choses? La question s'est posée, disons-les comme ça. Cette question que vous soulevez, elle a été soulevée par les députés lorsqu'ils ont été saisis de la loi de finances pour le premier Centre Pompidou. L'année de la création du Centre Pompidou, lorsqu'ils ont vu combien ça coûtait, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes en nouveau en train de concentrer des crédits sur Paris. Le ministre de la Culture de l'époque leur a répondu, détrompez-vous, le Centre Pompidou, ce sera une centrale de la décentralisation. Bon. La question, c'était de savoir si c'était une sorte de rhétorique politique creuse ou s'il y aurait une réalité derrière. La réalité, quand même, c'est que nous prêtons 5000 œuvres chaque année et que toute la collection des abattoirs dont on parlait tout à l'heure, c'est une collection qui nous appartient. C'est un don qui nous avait été fait, qu'on a rétrocédé aux abattoirs. On aura 40 ans l'an prochain, je ne vais pas dire, on aura 40 ans en 2017, et pour ces 40 ans, on va faire 40 zones de manifestation, c'est-à-dire qu'il y aura 40 lieux en France, où il y aura 70 manifestations différentes, qu'on va réaliser avec les acteurs locaux, c'est-à-dire les musées, les FRAC, les centres d'art. Il faut avoir conscience de ces échanges. Il faut avoir conscience, je crois, que le territoire français n'est pas dépourvu d'acteurs culturels. Il y en a, ils sont là.
Il y en a même toujours dans les conférences.
Mais oui, non mais. Vous avez à Toulouse plusieurs très beaux musées. Vous avez un centre d'art contemporain à Toulouse. Vous allez à Montpellier, vous avez des choses magnifiques. Alors après, jusqu'à quel degré on doit aller dans l'essaimage, c'est une autre question. On se déplace assez facilement maintenant. Ce qui est certain, c'est que dans des domaines où les sommes en jeu sont d'une telle importance, vous n'arrivez à faire quelque chose de vraiment significatif qu'à partir d'un certain degré de concentration.
Mais vous parlez des enfants, de l'éducation. Et par nature, ils sont partout, dans tout le territoire. Et s'il y a quelque chose à transmettre au niveau de l'art, c'est peut-être par les artistes.
Oui.
Donc il faut qu'il soit partout, sur tout le territoire. Donc comment on fait vivre des microstructures à proximité, puisqu'en plus c'est pas une fois une conférence et une semaine avec les enfants, c'est en régularité sur des cycles, sur des choses. Donc là, il y a toute une économie qui fait intervenir les artistes qui sont par nature libres, qui doivent prendre forme, enfin, ça, je ne sais pas combien ça s'évalue par rapport à la santé publique. C'est
vraiment des choix politiques. Hein. Oui, ce n'est pas vraiment des questions d'argent, mais, fondamentalement. C'est plutôt une question de savoir comment je conçois l'éducation artistique. C'est-à-dire que...
Et la présence des artistes...
Et du coup, la présence des artistes. Et actuellement, la conception de l'éducation artistique fait que la présence des artistes n'est pas forcément requise. Ça devient des initiatives individuelles d'enseignants. Ça devient de la spontanéité locale. Mais il n'y a pas... On n'a pas défini dans ce pays, je trouve que c'est un grave manque pour nous, on n'a pas défini un concept de l'éducation artistique qui véritablement ferait que les enfants sauraient ce qu'est l'art et ce qu'est faire de l'art. Parce que des artistes, vous en trouvez. J'en ai rencontré un ici en arrivant.
On voit monter la serre à la Courneuve, où il y a quand même des tas de manières de faire que les artistes vivent dans leur entourage localement, et au niveau international et local. Et ça, il y a souvent, effectivement, aucune rentabilité possible de tirer ce qu'on fait tout. Mais à l'opéra, par exemple, chaque fois qu'on pose ses pièces sur un côté d'opéra, on est subventionné à 75% par l'État, par les impôts. Et on pourrait imaginer la même chose dans les campagnes.
Oui.
Dans les banlieues.
Oui.
Ça devrait peut-être commencer.
Pour moi, c'est plus vrai. On ne va pas rentrer dans les cloisons administratives, mais c'est avant tout une question d'éducation nationale. Monsieur.
Comment une œuvre devient-elle une œuvre d'art?
Ah.
C'est le client qui fait le...
La question est très difficile, c'est...
Je demandais comment une œuvre devient-elle une œuvre d'art?
Je crois que si c'est une œuvre, c'est une œuvre d'art. La question, c'est de savoir si c'est une œuvre, à la limite. C'est-à-dire, est-ce que ça a de l'intérêt artistique? Alors, qui juge de l'intérêt artistique? Ni vous, ni moi, tous les deux, tout le monde. Plus dans des situations institutionnellement recensées, un certain nombre d'interlocuteurs, le galeriste, le marchand, le conservateur du musée. Le capitalisme. Enfin, le capitalisme, non, le capitalisme, c'est ses conseillers. C'est ça, hein, c'est un système. C'est un système. Le marché de l'art, maintenant, c'est devenu un système où l'argent circule de manière un peu aveugle. Et vous prenez le capitaliste, vous le voyez entouré d'une douzaine de conseillers qui sont d'anciens conservateurs. Voilà. Mais, bon, ça, c'est une vieille question. Qu'est-ce que là hein,
est-ce qu'un Picasso dans un propre fort est une œuvre d'art?
Ah oui, bien sûr. Le propre fort n'empêche pas d'être une œuvre d'art.
Elle n'existe pas à ce moment où elle n'est pas en relation avec
le public. Le public, elle est privée. Et c'est une œuvre d'art. Tu diras qu'elle ressort.
Autre question?
Une question aussi.
Oui. Moi, je me pose la question par rapport simplement à l'existence des musées, puisque l'évolution de la technologie fait qu'on peut très bien, et on le fera de plus en plus, de projeter telle peinture sur le mur à la maison, acheter le droit de le projeter, visiter virtuellement Maubourg, qu'on peut déjà faire d'ailleurs, et donc voilà. Bientôt plus besoin de se déplacer. Donc le lieu pourra devenir un lieu quelconque où on gérera un dossier, une bibliothèque d'images peut-être.
Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, vous l'imaginez. Parce que, pour dire les choses très simplement, ce que vous allez voir sur votre mur, ce n'est pas l'œuvre d'art, c'est l'image de l'œuvre, la reproduction de l'œuvre. J'en parlais cet après-midi, il y avait un colloque sur le virtuel. Jean-Luc Godard disait, si vous voyez la télé, c'est pas un film, c'est la reproduction d'un film. Mais l'œuvre d'art, c'est pire, à la limite. Parce que ce que vous allez voir sur le mur, vous ne verrez pas, si c'est une peinture, par exemple, vous n'allez pas voir la matérialité de la peinture, vous n'allez pas voir la toile, vous n'allez pas voir le relief. Vous verrez des couleurs qui ne seront jamais exactement les couleurs. Vous n'allez pas pouvoir vous situer par rapport à l'œuvre. On va perdre de la réalité parce que ce sera une image là, alors qu'une œuvre c'est quelque chose qu'on accroche. Là, ça revient. Et puis, j'ajoute une chose, c'est que voir une œuvre au musée, ça n'est pas une expérience de procès. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'émotion sociale, la visite au musée, une sorte de moment où on partage avec une collectivité la contemplation d'une œuvre, c'est quelque chose qui n'est pas différent. D'ailleurs, ce qui est très impressionnant, c'est quand vous regardez, vous savez, les visiteurs asiatiques, culturellement, ils ne sont pas très attachés à la notion d'original. En gros, que ce soit un original, une reproduction, bon, on voit ce qu'ils voient. Mais, pourtant, vous verrez lorsque vous visitez le musée, la première réaction, c'est de photographier, et la deuxième réaction, c'est de partager. Vous allez envoyer la photographie à leur correspondant. Et c'est une notion. Souvent, ça revient. Là, c'est assez effrayant, c'est-à-dire le fait que les photographies sont regardées, ça se dit qu'il y a vraiment quelque chose, mais en même temps, le fait qu'ils viennent de Chine, de Toulouse, de photographie, et quand ils partagent, ça montre que ben, la rencontre avec l'œuvre, c'est quelque chose de spécial. Un moment privilégié.
Pour rentrer, pour aller dans le sens de ce que vous dites, j'aurais envie de vous parler d'une petite expérience, d'une œuvre un jour, d'une visite au musée Guggenheim à Bilbao, où je suis tombé en arrêt devant une œuvre de Hansen Kieft. On a acheté avec mon épouse le livre. Eh bien, je suis déçu chaque fois que je le vois. Il n'y a pas la vibration que j'ai ressentie devant l'œuvre. En dehors de tout l'aspect pictural, de tout l'aspect, vous dites ce qui ressort, il y a une certaine vibration de l'œuvre d'art que l'on ne ressent pas dans la reproduction.
En revanche, les possibilités de reproduction, toutes ces possibilités offertes par le numérique, c'est très important pour nous parce que ça nous donne la possibilité d'aider à préparer la visite. Ça nous donne la possibilité de faire des enrichissements pendant la visite. On a une application d'aide à la visite qui est conçue pour ça. Et au-delà, ça donne la possibilité d'entretenir une sorte de relation avec notre public qui va au-delà simplement des gens qui font la queue, qui rentrent, qui voient et qui sortent. Et mon idéal, c'est d'arriver en utilisant le numérique, en utilisant les réseaux sociaux, et c'est déjà bien engagé, à faire en sorte que le public du Centre Pompidou, ça soit véritablement une communauté, où on discute ensemble. C'est-à-dire que le musée ne soit plus perçu comme cette sorte de prescripteur qui dit « ben voilà le beau, l'œuvre d'art, vous l'avez là », mais beaucoup plus comme quelqu'un qui aide à partager l'émotion artistique. Et la présence notamment des gens sur les réseaux sociaux, notamment des jeunes, montre qu'on fait des progrès dans ce sens.
Monsieur.
Ce n'est pas une question, mais plutôt une observation. J'ai remarqué qu'à Londres, peut-être partout, sans doute partout, que ça ne suffit pas d'offrir, monter un expo, parce qu'il y a tellement de concurrence entre les expos dans le monde pour attirer le grand public, etc. Qui maintenant, il y a une tendance d'offrir quelque chose d'extra. Par exemple, à Londres, aujourd'hui, il y a un expo de Caravaggio. Et ce n'est pas justement Caravaggio, c'est after Caravaggio, post-Caravaggio. Est-ce que vous voyez cette tendance, que va continuer comme ça? Oui.
Quelle est la question?
Ce que disait monsieur, je crois, c'est qu'on peut avoir le sentiment désormais qu'il ne suffit pas de faire une exposition consacrée à un artiste, mais qu'il faut quelque chose en plus pour se distinguer des autres expositions qui sont nombreuses et pour attirer le public. Alors, je suis hésitant là-dessus parce que il y a une chose dont je suis persuadé, c'est que le musée maintenant, surtout pour préparer l'avenir, doit être un lieu de convivialité. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se résoudre à cette sorte d'administration où il y a des moutonnières, on appelle ça horriblement, vous savez, comme dans les aéroports pour faire la queue, là. Et puis une queue qu'on gère comme on peut, des gens qui rentrent et qui sortent. Il faut véritablement que le musée, ça devienne un lieu de vie où on peut trouver du plaisir à faire diverses choses. Manger, boire, consulter des documents, naviguer sur Internet, voir un spectacle, etc. Tout ça. Cela dit, une fois que vous avez une exposition sur un sujet, disons, qui est un sujet suffisamment porteur, locomotive, et que, mais ça ne suffit pas, et que vous avez trouvé le bon angle d'attaque, ben ça peut très très bien marcher tout seul, je dirais. Regardez, deux expositions, une exposition qui s'appelait Picasso Mania, qui a eu lieu il y a quelques mois au Grand Palais, Picasso et les gens qui l'avaient influencé. Ça ressemble à ce que vous disiez. Donc c'était apparemment le sujet porteur. Les choix de mise en scène ont été contestés, il y a eu un mauvais buzz, et finalement, peu de public, relativement, peu de public. Magritte, dont je vous parlais tout à l'heure, sujet hyper classique, angle d'attaque original, c'est-à-dire Magritte et la philosophie. Alors les gens se disent, ouh, ça a l'air dur. En même temps, Magritte, je connais, c'est quand même une peinture assez facile d'accès, hein, assez abordable. Donc, sujet exigeant avec une peinture abordable, j'y vais, ça m'intéresse. Et c'est comme ça que, uniquement avec Magritte, on a des queues terribles, et les gens pourtant viennent. Les gens viennent et on a une très très bonne fréquentation. Ce que je pense, cela dit, ce que je pense, c'est que l'avenir, ça va être de contextualiser le plus possible les expositions, c'est-à-dire de se servir de tous les instruments que l'on a, notamment Internet et le numérique, pour donner du sens, le plus de sens possible. Faire en sorte que les gens qui veulent simplement voir le tableau, ils voient le tableau, les gens qui veulent aller au-delà, ils vont au-delà. Vous connaissez Umberto Eco, qui est un écrivain, linguiste, il a écrit un petit bouquin qui s'appelle « Mon musée idéal ». Dans le musée idéal d'Umberto Eco, il y a une seule œuvre, un seul tableau, qui est au fond. Mais pour y arriver, il faut passer toute une série de pièces, et on traverse des pièces où on voit quelles étaient les couleurs à la mode à l'époque où le tableau était peint. On voit dans la pièce suivante quels étaient les tissus, la façon de s'habiller des gens. On voit dans la pièce suivante comment ils se parlaient d'amour à l'époque. Et ce n'est qu'une fois qu'on a fait toute cette traversée de contextualisation qu'on finit par arriver à l'œuvre. On a l'impression déjà d'être en empathie, en harmonie avec l'œuvre. Ben, ce qu'on peut essayer de faire avec le numérique, c'est des choses qui ressemblent à ça.
Bien, si vous voulez, on va arrêter les questions.
Madame, peut-être.
Ah, une dernière question.
Merci.
Et puis on continuera à discuter.
Oui, nous sommes à Londres et nous avons vécu avec la naissance de Damien Hirst. Et c'est un phénomène que je n'arrive pas à m'expliquer. Alors, Saatchi, qui était un grand collectionneur, l'a fait connaître et il a fait des choses intéressantes. Maintenant, il a au moins 200 personnes, vous avez parlé de ça il y a un moment, 200 personnes qui travaillent pour lui, pour faire des petits ronds de couleurs qui sont vraiment pas intéressants, mais les prix sont de l'ordre, oui, phénoménal. Expliquez-nous ce phénomène.
On n'aurait pas dû accepter la dernière question. Non, moi je ne l'explique pas. Enfin, disons, l'évaluation de l'intérêt artistique d'une œuvre n'est pas une science exacte, et donc on a des phénomènes de mode. Je parle de phénomène de mode parce que, enfin, je suis très prudent là, mais Damien Hirst, à ma connaissance, il ne fait pas partie actuellement des grandes valeurs que par exemple, qu'un grand musée a envie d'exposer. Il y a eu un phénomène, puis ce phénomène s'est calmé, s'est apaisé. Ce qui est certain, c'est que dans l'économie de l'art contemporain, si vous arrivez à choquer, si vous arrivez à faire violence aux spectateurs, au public, avec une certaine astuce, il peut se passer, il peut se produire ce genre de choses où vous allez en quelque sorte être survalorisé. Mais je ne m'épuiserai pas dans ce genre de discussion parce que dès que j'en parle avec mes conservateurs, il y a 30 conservateurs au Centre Pompidou, ça fait 30 sujets de discussion possibles, chacun a sa hiérarchie et chacun m'explique à quel point, je parle par exemple, connaissez un peintre japonais très très connu qui s'appelle Murakami. Majoritairement, mes conservateurs ne veulent pas en entendre parler. Parce que Murakami, ça leur paraît une fausse valeur, ça leur paraît un phénomène de mode. Du Damien Hirst dans le domaine du kawaii, comme on dit, du mignard. Hein. Donc, je crois que le problème avec l'art contemporain, c'est que la postérité n'a pas décidé. Voilà. Et donc, on est sans arrêt en risque de se tromper. Et ce qui est terrible d'ailleurs quand on achète, c'est qu'on a très peur de faire le mauvais achat, c'est-à-dire l'achat dont les générations suivantes diront « mais qu'est-ce qui leur a pris d'acheter ce truc-là » Et en plus, les musées publics n'ont pas le droit de vendre, mais bravo. Voilà, je m'en sors par une pirouette.
Non, bah, s'il vous plaît, arrêtez les questions. Vous pourrez discuter après, tout à l'heure.
Je vais juste
mais dire... je voudrais faire venir Joël de Harche, qui a quelque chose à proposer à lui.
Bonsoir. Donc, Monsieur Lehmann, le maire de Montessieu.
On n'entend
pas. On n'entend pas.
Excusez-moi,
je ne suis pas très habituée. Je disais donc, Monsieur Lehmann, le maire de Montessieu n'a pas pu être présent ce soir. Et donc, il m'a chargé de vous offrir ce livre, qui est en fait une preuve de la culture en milieu rural, qui a été édité par l'association Patrimoine Rhône-Alpes, qui vous donnera donc un petit aperçu des richesses de nos paysages et de notre secteur. Voilà, donc, les mots de Patrick Lemal, que je peux lire éventuellement. Donc, Monsieur le Président, connaissant vos compétences multiples et votre implication dans le domaine de la culture, je regrette de ne pas pouvoir assister à votre conférence et je vous souhaite la bienvenue sur la commune de Montesquieu-Bolest et bien la semaine amicale de salutation. Voilà. Donc, le tout étant, il y aura un tableau de Pierre Jourdain, qui est un peintre natif de Montesquieu. Nous avons le plaisir d'exposer la dernière. Je peux vous mettre en contact si vous voulez. il est décédé il y a peu, mais sa famille doit éventuellement à proposer.
Merci.
Voilà. Donc, nous avons été très honorés d'avoir votre présence ici ce soir. Message personnel, si jamais vous avez donc des œuvres qui sont en trop, à Montesquieu, nous avons l'intention d'aménager un magnifique local. Parce qu'on s'est aperçu souvent que le FRAC, entre autres, voulait bien prêter des œuvres. Mais que malheureusement, le coût des assurances et qu'il fallait des locaux qui soient très sécurisés et que les petites communes n'ont pas les moyens, bien sûr, de faire. Et puis vous avez parlé aussi du musée mobile, c'était voilà là-dessus que je voulais également intervenir en vous disant que si l'idée. Si le projet redémarrait, on était preneurs. Voilà. Bon, bien, merci
beaucoup. Et
merci. Et si vous voulez, continuez les discussions, continuez les échanges. Vous pourrez le faire autour d'un verre, autour de la table qui est à côté. Merci.
Merci. On a dit à l'échelle par ça.